Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je m'appelle Daniel Jutras, je suis le doyen de la Faculté de droit de l'Université McGill. Je vais vous souhaiter la bienvenue à cet événement très important du Centre du droit de la personne et du pluralisme juridique de l'Université McGill. Nous tenons une conférence René Cassin de manière régulière. Je suis très content ce soir de pouvoir accueillir parmi nous Jacques Frémont, le président de la Commission des droits de la personne du Québec. Je dirai un mot tout à l'heure au sujet de Jacques, mais il sera présenté plus formellement par ma collègue Adèle Blackett. La conférence René Cassin a été créée il y a 25 ans, en 1988. Ça fait donc un bon moment et elle a permis à la Faculté de droit d'accueillir des conférenciers très importants, dont la liste apparaît sur le programme que vous avez entre les mains. Elle a été créée à l'initiative d'une organisation qui s'appelait Interamicus, d'un groupe d'amis canadiens de l'Alliance israélite universelle et de la Faculté de droit de l'Université McGill. Et M. Jonas, je pense qu'il était l'un des instigateurs de la conférence à l'époque, dira quelques mots des objectifs et de la mission de cette conférence. Mais laissez-moi peut-être dire un mot au sujet de René Cassin et de l'importance de ce personnage, la raison pour laquelle il est honoré par le biais de cette conférence. Je pense que la plupart des gens ici qui sont des acteurs des droits de la personne, ou réels ou aspirants, je dirais, sont d'accord avec moi qu'il faut, dans ce terrain d'action, faire preuve de passion, de courage, d'engagement, mais aussi de distance critique, de sagesse, de profondeur, pour pouvoir mettre en perspective ce qu'on peut réaliser vraiment sur le terrain. Il y a donc un équilibre à maintenir entre l'action sur le terrain, l'activisme même, et la réflexion théorique. Et cet équilibre entre l'action et la réflexion théorique a véritablement caractérisé la carrière de René Cassin. Il y a une courte description de la vie de René Cassin, bien insuffisante, qui apparaît sur le programme, et il y a beaucoup à dire. Laissez-moi simplement évoquer ceci. Il était jeune docteur des sciences juridiques, économiques et politiques, alors qu'il a été mobilisé et grièvement blessé au combat pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, il est devenu, un peu comme plusieurs d'entre nous, professeur de droit, dans son cas à Aix-Marseille, puis à Lille, puis à Paris. Un prof de droit, en fait, toute sa vie. Il a été diplomate et homme politique. Il a représenté la France à la Société des Nations. Il a été membre du gouvernement de la France libre à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, vice-président du Conseil d'État après la guerre, président de la Cour européenne des droits de l'homme dans les années 60. Et il a été, comme vous le savez, l'un des instigateurs avec notre regretté collègue John Humphrey, un instigateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a aussi reçu le prix Nobel de la paix en 1968. Cet équilibre entre l'action, donc, de diplomate, d'acteur des droits de la personne, d'une part, et d'universitaire, est quelque chose qui caractérise aussi l'activité du centre qui organise cette conférence ce soir, le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de McGill. The center, as you know, brings together students. It's a very important site. It's a residence, in a sense, for many of our students who are committed to human rights and legal pluralism. But it also, obviously, brings together scholars and activists, and often those identities are merged in a single person, as is true of our new director, François Crépeau, who is both a scholar and an important actor in the very tragic circumstances that we face globally in relation to migrant populations, as United Nations reporter, as is true also of his predecessor, René Provost. There have been a few directors, but I want to mention René Provost as the founding director of the center, was recently named a Trudeau Fellow, and Trudeau Fellowships, as you know, require the fellow to bring together theoretical insight and concrete action in public policy and on the ground. And as is also true of my colleague Adèle Blackett, who is going to be the moderator for tonight. Adèle, who is a phenomenal scholar in human rights, but also very active, both locally and internationally in international labor law, and also through very extensive efforts, participation, and energy within the commission itself. This long-standing tradition of balance between action and theoretical sophistication is also manifest in the remarkable career of our speaker, Jacques Frémont, who is my friend, and so I'm doubly delighted to welcome him to McGill tonight. I will invite Adele Black to introduce him in a moment, but allow me to say how much of a pleasure and an honor it is to welcome Jacques Frémont among us. Vous savez, nous soulignons le 40e anniversaire de la Charte québécoise des droits et libertés, et si vous êtes un peu attentif aux médias, vous savez que Jacques Frémont est sur toutes les tribunes, et sa voix est immédiatement reconnaissable. Le son, bien entendu, mais aussi, si vous l'avez jamais entendu parler, vous allez comprendre de quoi je parle. Il a une voix immédiatement reconnaissable tant par la sonorité que par le contenu qui inspire, qui provoque la réflexion, mais je dirais plus profondément, qui sert presque de conscience à la société québécoise sur les questions vraiment fondamentales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Bien honnêtement, je ne pourrais pas imaginer un meilleur président pour souffler les 40 chandelles de la Charte. Merci, Jacques, d'être avec nous ce soir. Je vais maintenant céder la parole à notre ami et soutien important, moral, et par sa sagesse, par son énergie, l'honorable Joseph Nass. As you know, he's a former justice of the Quebec Court of Appeal, now at Woods, and the firm that he joined after his retirement, but it's not truly a retirement, at least from what I can see. There's a whole lot of action going on that involves Justice Nass. Prior to his appointment as a judge, Mr. Nass was a renowned lawyer who was specializing in litigation, and he appeared before all of the courts of Canada, including the Supreme Court of Canada. As a judge, he was a mediator within the framework of the system of mediation established in the Court of Appeal, and is now a lecturer, mediator, very active in this type of environment, and of course deeply committed to the Faculty of Law as an alum of this faculty, but also deeply committed to the cause of human rights, again, both locally and internationally. And I would ask him to come forward, tell us a bit more about the impetus for the Conférence René Cassin. Encore une fois, bonne soirée, bienvenue à McGill.
Merci, Monsieur le doyen Jutras, Monsieur le professeur Frémont, Mesdames, Messieurs. La conférence René Cassin sur les droits de la personne a été inaugurée en mars 1988. Elle avait été établie par les amis canadiens de l'Alliance israélite universelle, dont j'avais l'honneur d'être le président à cette époque. C'est ainsi que nous voulions marquer le centenaire de la naissance du célèbre défenseur des droits de la personne, René Cassin, qui fut le président de l'Alliance israélite universelle pour trois décennies à partir de 1943. What better way to honor René Cassin and mark the 100th anniversary of his birth than the establishment of a lectureship in his name at McGill's Faculty of Law, which has such an illustrious reputation in the field of human rights. This is the 14th lecture. The previous lectures were delivered by such distinguished jurists as the Chief Justice of Canada, Beverly McLaughlin, Justice Claire Dubé of the Supreme Court of Canada. It was she who delivered the inaugural lecture in March 1988. Ambassador Yves Fortier, who at the time was Canada's representative at the United Nations, and most recently, Professor Erwin Kutler, who is with us tonight. He is the former Attorney General and Minister of Justice of Canada. He was also instrumental in setting up this lectureship, which was inaugurated, as I mentioned previously, in 1988. He was a great force with Inter Amicus and with the law faculty of McGill in preparing the necessary vision which brought it about and which resulted in a lectureship which has now gone on for all these years. I should add that in the years that I was an active lawyer at the bar, I was also a member of the bar committee, which studied the charter then being proposed more than 40 years ago. It was the bill which was ultimately going to be presented to the Assemblée nationale. Donc, cet avant-projet de loi, il y avait un comité de barreaux dont j'avais l'honneur de faire partie, qui avait étudié et qui avait proposé certaines modifications, amendements. Et nous avons vu le jour où cette charte a été adoptée. Et c'était la première charte au Canada, n'est-ce pas? Le professeur Jacques Frémont, notre conférencier aujourd'hui, à cette 14e conférence René Cassin, est un juriste réputé dont la carrière remarquable fait honneur aux principes qui inspirèrent les activités et les œuvres de René Cassin. Il me fait grand plaisir d'accueillir le professeur Frémont parmi nous.
Distingués invités, messieurs, mesdames, il me fait un énorme plaisir de vous présenter monsieur le professeur émérite Jacques Frémont, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec depuis cet été 2013. But Jacques Frémont, as you've heard, is no stranger to the McGill Faculty of Law, to the Quebec legal community, and indeed to the international community of scholars. Diplômé en droit de l'Université Laval, il a poursuivi ses études supérieures à l'Université York et au London School of Economics and Political Science. Pendant plus de 30 ans, il a occupé de nombreux postes à l'Université de Montréal et a notamment été le directeur du Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de 1994 à 1997. Il a été doyen de la Faculté de droit de 2000 à 2004. Et il a occupé la double fonction de provost et de vice-recteur aux affaires académiques de 2007 à 2012. He's widely published in the fields of constitutional law and public law, and throughout his illustrious career, he's acted as a human rights expert and an expert on democratic governance with CEDA, the Organisation Internationale de la Francophonie on World Bank Finance Projects, and he has received numerous prizes, honors, including being named a member of the Order of Academic Palms of the French Republic in 2009, being awarded a PhD honoris causa from the Université Paul Cézanne in Aix-en-Provence in 2010. But his rootedness and commitment to Montreal and to Quebec find their perfect expression, I believe, in his decision to leave his post as director of the International Higher Education Support Program of the Open Society Foundations in New York to return and take up the presidency of the Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse du Québec, leading it into this, its 40th anniversary. So considering that many people in the audience tonight, including the former director of the Center for Human Rights and Legal Pluralism, my colleague Shepherd, who was also a human rights commissioner, have known Jacques Frémont for decades. I might be one of the only ones to have met him very recently on his return and his appointment to the helm of the commission. His return, fortuitously, came at a particularly decisive moment in Quebec's recent history, with the introduction of the so-called Charte des Valeurs, initially the Secular Charter. Ce fut pour moi un énorme plaisir d'accompagner Monsieur Frémont pendant cette période, un moment névralgique, I believe one of the most critical periods in the CDPDJ's history, and to watch him take a firm, rigorously reasoned, and principled position that, in my opinion, significantly shaped the direction of debates and of our society. Le président Jacques Frémont nous a fait honneur. Professor Frémont is acutely aware that the Commission cannot rest on its laurels, and while celebrating its past, must continue to apprehend the significance and complexity of the continuing challenges to human rights here and abroad that lie ahead. It must remain vigilant, and it must remain à la hauteur. It is therefore with great pleasure that I invite Professor Frémont to deliver the 2015 René Cassin Lectureship in Human Rights, entitled The Quebec Charter of Rights and Freedoms at 40, Éléments de perspective et de prospective. Professeur.
Monsieur le doyen, distingués invités, chers collègues, il y en a plusieurs dans la salle, chers étudiantes, chers étudiants, first, a few words to tell you how grateful I am for the honor of being able to spend
to spend this afternoon with you. And the occasion, of course, is the René Cassin lecture. And the occasion is also the 40th anniversary of the Quebec Charter of Rights and Freedoms. 40 years old might appear very old for some of you. It is young for many of us still, and we dearly like to get back to this young age. For the last 2 years now, I've had the privilege to preside the Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, and I must say that it provided me with a different perspective concerning human rights, and it complements the sort of more traditional academic perspective one has when one teaches law. So I'd like to share some thoughts tonight about where we come from in terms of the Quebec Charter and where we head to or where we might be heading. I'd like to stress, and has been done before, that I am extremely privileged to have Adele Blackett as a commissioner, as a fellow co-commissioner at the commission. And Miguel has been very generous to share her with us. And also before that, Colleen Shepherd, of course, who sat as a commissioner for many years. On the 27th of June of this year, formally, the Quebec Charter of Rights was 40 years old. So it was adopted in 1975. One can ask, what happened in 1975 or in the years before? Why was it adopted? It was the first charter. And seen from this point in time, it's a bit puzzling. Why did this charter appear on the radar? Of course, it was 5 years after the War Measures Act, the crisis in 1970. It was almost 10 years after the adoption of the Canadian Declaration of Rights. I don't know if it is still studied in this law school. It's a sad story of a missed rendezvous. But Jacques-Yvan Morin, in 1963, actually, in a seminal article in the McGill Law Journal, so there, McGill's influence again, proposed that, for the first time, that Quebec could adopt a Charter of Rights and Freedoms. It was not called like that. So the idea was there, but it was in the early 70s, La Ligue des Droits et Libertés, it was called under a different name by then, which pushed really hard after the War Measures Act for Quebec to adopt a Charter of Rights. Our first bill, and Jonas referred to that, was submitted to the Quebec National Assembly on the 29th of October 1974 by the then Minister of Justice, Jérôme Choquette. Mr. Choquette is still alive and kicking, I understand, to this very day. There was a parliamentary commission. I mean, briefs were received. People testified in front of before the parliamentary commission. A new version was submitted of the charter in March 1975, and the charter was adopted on the 27th of June, 1975. What is amazing is that on that very same day, the first members of the Quebec Commission of Rights, Human Rights at the time, were appointed on the very day the bill was passed, and Maître René Hurtubise, who'd been heading the Quebec La Ligue des Droits et Libertés, became the first chair of the Quebec Commission. The charter then was extremely innovative among other things because it was a complete charter, and it was mentioned earlier on that it was a first charter for Canada and for the students. Remember, we're 6 years before the adoption of the Canadian Charter of Rights, so it is before its time. The extent of the guaranteed rights was very impressive, and even more so when you include the social and economic rights, which were adopted, Section 39 to 48 of the Quebec Charter, and to this day, it is still the only jurisdiction, certainly in Canada and I believe in North America, where social and economic rights are recognized and included in a Charter of Rights. Of course, it was innovative, and it is one of the characteristics of the Quebec Charter that it applied not only to public law and public action, but it does apply to private law relationships. So it really has a presence in the everyday life, certainly as important, different, but as important as the civil code. It did offer at the time a remedy to all citizens to invoke, to claim their rights in front of the courts, and it established the Quebec, which is now called Commission of Youth Rights and Human Rights and Youth Rights. But, of course, since 1990, we also have the Tribunal des droits de la personne, which has a jurisdiction in Quebec, but it does not preclude people from invoking the Quebec Charter in front of all the courts in this part of the country. 40 years, it was both a long and I would say a short journey. Many have stressed the importance that the Charter had to in sustaining the emergence of a contemporary modern Quebec, or even postmodern Quebec. It was maybe the last stone of the Quiet Revolution at the time. It arrived a bit later. But it sort of projected, really, Quebec's mindset, I would say, in terms of human rights, in terms of the role of the rule of law, and in terms of the role of the courts within the democratic fabric of the province of Quebec. What is striking is that I'm told, yes, I was born in 1975, but I don't remember. I was a law student then, but I was told that it was not seen as a great revolution, the adoption of that charter. It was a very discreet matter. And in fact, very clearly, it's after 1981, after the adoption of the Canadian Charter, that of course the Quebec Charter was sort of rediscovered. And so the impact of the Quebec Charter has a lot to do with the adoption and the impact of the Canadian Charter. One can say very clearly that Quebecers' rights today are much better protected than they were 40 years ago, and that Quebecers enjoy, I think, a real throughout charter with genuine remedies and effective rights. The question which puzzles me, and it's one of the questions I might answer indirectly tonight, is right now, 2015, in an increasingly diverse and connected Quebec society, would we be still willing, if we had to start all over again, would we be still willing to collectively renew our commitment in pursuing the human rights agenda for the next 40 years? Would it be possible today, in 2015, to adopt something similar to the Quebec Charter of Rights if we had to start from scratch? And somehow in asking the question, I rather not answer or attempt to answer that question. Are we at the crossroads now? Maybe. I will say a few words about the role of courts with regard to social change and the recent tendencies of the courts to tighten the interpretation of the Quebec Charter and of constitutional rights in general. We are at a crossroad also because, and it will be the second part of this conference, because right now the challenges are not so much with the courts. They're more articulated in terms of the relationship between society as a whole and the tensions within the society and the Charter of Rights and the rights which are protected. What do you do when you're at a crossroads? Yogi Berra said, when you come to a fork in the road, take it. By the way, Yogi Berra, I thought, had been dead for 20 years at least. And I discovered last week that he died last week. So it was a surprise to me. He's the one who said baseball is 90% mental, the other half is physical. He also said you give 100% in the first half of the game, and if that is not enough, in the second half you give what's left. A little history, if I may say, about the Canadian Charter. I remember very well the debates at the time. Most of you are too young. You were not even a concept. But the Canadian Charter, there were some debates in between 1978 and 1981. And the debates, it was all mixed up. Debates about the question of sovereignty, parliamentary sovereignty, patriation, the amending formula for the Constitution, and on the top of that, a constitutional charter of rights. People understood. There was very little understanding what it was all about. Discussions about the notwithstanding clause. It was really a mess up. And what was fascinating, I was working in London at the time, and we were asking in Canada for the British Parliament, for Westminster, to adopt the Charter of Rights for Canada, while, of course, Westminster and Maggie Thatcher was Prime Minister then. Westminster had no idea of what it was all about and didn't want one for itself. So very clearly, there were some paradox then. I think we lawyers knew at the time, and judges, what it was all about and what sort of business we were facing as a country. It has been discovered by the public subsequently. And so the Charter, Canadian Charter, and then the Quebec Charter, which complemented in some respect in the public image the Canadian Charter, had a profound symbolic value for the public. But it provided some extremely powerful normative tools for the judicial profession, for the legal profession, and for law in general. And that was quite a revolution in the country. And the strength and the power of the law really sort of became obvious in the first 20 years after the adoption of the Canadian Charter. And it was, my God, it was a sort of Klondike for us. If you had been around in the 80s, the first Canadian Supreme Court cases dealing with the Canadian Charter, it was absolutely fascinating. We felt that something was happening in society. The big cases you are still studying, Oakes, Brigham, so on and so forth, we discovered that. Can you imagine one day we discovered Oakes? Oakes is so worn today, but it was a very exciting era. And the role of the courts, of course, has been absolutely crucial. And everything has been said about the role of the courts within the Canadian democratic system. Closer to us, the Quebec Charter was rediscovered in the light of the Canadian Charter. Of course, you might have studied about it. The interpretation of the Quebec Charter, was it laziness or pragmatism? But the Supreme Court indicated that basically the Quebec Charter of Rights and Freedom ought to be interpreted very much in the same way that the Canadian Charter had to be interpreted, even though the text and the norms were different. So we were navigating from the Canadian Charter to the Quebec Charter back and forth. There, it was a time when the judgments were every judgment was a victory. And as early as 1979, the Montreal School Board was condemned for discrimination in a sexual orientation case. It was one of the first cases. You will remember, some of you, the Tremblay against Daigle case about that the right to life of fetus and in the light of abortion. Of course, the issue of religious freedoms have always been around. You will remember the Bergevin and, of course, the Amsalem cases, which were decided under the Quebec Charter of Rights. Ford, in 1999, about freedom of expression, was crucial, and as far as the Quebec Charter was concerned, safeguarded the dignity of the person, the right to dignity. The Hôpital Saint-Ferdinand in 1996, it was, and it still is a very forceful decision, and other cases among which disability rights, impartiality of the courts, LIPE, it was decided under the Quebec Charter also. So there are many important cases, and I think the Quebec Charter really did make a difference, and the judicial approach was remarkable in many matters, and I would say that overall it was a most positive exercise. Look at where equality between men and women are today, 40 years later. The struggle against homophobia is today, I think we've progressed a great deal, even though there's still a lot to do. Assistance dogs, for instance, these days for people with disabilities. Inclusion scolaire, how do you say this in English? So these are very concrete cases, discriminations, which are not totally eliminated, but as a society, we've grown a great deal. So the courts have been allied of vulnerable persons and have forced a new dialogue within the Quebec society. And it was the golden age because the courts were previsible. They were in favor of the charters and were their ruling was according to give full effect to the charters, Canadian charters and Quebec charter. Seen from where I am now, there are little signs that this sort of enthusiastic embrace of the charters, it's not coming to an end by the court, but there's a little resistance. There are noises left and right in various courts. It starts with the Tribunal des droits de la personne, even last week with the Quebec Court of Appeal, Canadian Supreme Court 2 months ago. And there are signs that somehow the golden age might be not over, but the party is a little more quiet than it used to be. A few examples. The Tribunal des droits de la personne, a few months ago, issued a ruling. It was a case of sexual aggression and refused to grant any punitive damages to the victim. Sexual aggression, gross sexual aggression. Said the aggressor did not have the intent. Wow. The Court of Appeal, the Quebec Court of Appeal last week recognized that the rights of parents to assist to bring an assistant dog in a hotel had been grossly violated by the hotel owners. We were seeking a symbolic $2,000 compensation for the parents, and the Quebec Court of Appeal attributed $200 for the violation of a constitutional right, $200 compensation. Someone said in my office, well, let's put $5,000 aside for the year, and when we have claimants, instead of going to the court, we will give them $200 chips. And we will not have to take their cases to the courts. This being said, of course, it's a bit the issue of damages for violation of rights now hurts. It hurts in Quebec because we're not aligned with the rest of Canada. We're not aligned with even what is going on under the civil code. So it is a very disturbing. That it did not happen just in one case. It's many, many cases where systematically, as if the violation of rights was not as important when you deal with the Quebec Charter. We had, in terms of evidence, Supreme Court released a decision in June in Latif against Bombardier. It was a profiling case. And the threshold for the evidence of systemic discrimination in cases of profiling was not what we expected. Of course, when you sue for systemic discrimination, you do not have the evidence. The other party, the defendant, has the evidence. So the sort of threshold and where the onus was shifting was set in a different place. Now it looks as if we're back to the onus and the shifting process of the burden under the civil code, which is disturbing and will make our life miserable to demonstrate in many cases that there is discrimination. There are other cases. I won't go too long for in these cases, but I somehow have the feeling that the tendency is discrete for the moment. For the major issues, the courts are still well aligned. Ville de Saguenay concerning the neutrality of the state. That's if against Bombardier concerning profiling, which is a gross violation of equality rights. That's fine, but in the little details, it might be a little more difficult. It reminds us, and I think it's important for you students to understand, that there are limits to the judicial approach to fighting rights. And the first limit is that as a society, we don't control the agenda. No one has control over what the courts will deal with. So it's almost an accident that cases arrive before in front of the courts. And these accidents, you never know what will happen afterwards. You don't always get the judgments you want and the reasons you want. And sometimes it can be a bit disappointing. And even if we have the judgments we were seeking to get, and I like the case of Action Travail des Femmes against Canadien National, Gaz Métropolitain in 2008, a very important cases concerning systemic discrimination and the imposition of sort of quota systems, not that I should call them quotas. It was in 1987 and 2008, and to this day, I'm not sure it has made a great difference except for the two companies which were involved in these cases. So there's a resistance in many cases to the implementation of the spirit of the judgments of the court, especially in the private sector. So this tightening, this judicial tightening I was mentioning, I think indicates that in the future, it might not be as sound to rely exclusively on the courts to provoke social change in terms of the charter values and in terms of the profound impact the charter norms can make. In fact, again, I'm going to quote Yogi Berra, but concerning he was dealing with baseball, of course, but about the future role of the judicial power with regard to enforcing the charters. The future ain't what it used to be, I'm afraid. Changement de perspective, maintenant, si vous le permettez. Où en sommes-nous en termes de protection des droits et libertés au-delà des décisions judiciaires? On a vu qu'on ne pouvait pas compter uniquement sur les tribunaux pour faire évoluer le droit et pour assurer la promotion des droits. Vu la perspective de la Commission, et je suis sûr que ma collègue Blackett sera d'accord, tout ne paraît pas complètement rose au Québec. J'avais récemment l'occasion de le souligner à l'Assemblée nationale à l'occasion d'une cérémonie soulignant le 40e anniversaire de la Charte. Je me cite moi-même. Les défis continuent à être massifs dans plusieurs domaines. L'égalité homme-femme, en dépit des élans rhétoriques des uns et des autres, demeure encore tout aussi difficile à atteindre. Les problèmes reliés à l'itinérance ou à la santé mentale perdurent. On se demande si les obstacles aux droits des personnes handicapées seront un jour en voie de se résorber en dépit des beaux discours. Le profilage discriminatoire continue encore trop souvent de survenir. La discrimination par rapport notamment aux personnes racisées est une réalité malheureusement beaucoup trop prégnante. Les problèmes d'intégration des nouveaux arrivants demeurent considérables et nous continuons collectivement à refuser de faire face à nos responsabilités à l'égard de nos populations autochtones, pour ne mentionner que ces dossiers. Bref, 40 ans de charte ne doivent pas nous faire oublier le chemin qui reste à parcourir comme société. Comme société, le défi du changement des mentalités demeure considérable, particulièrement à une époque où certains, revendiquent, et je pense que c'est important, où certains revendiquent le droit de la majorité à écarter les droits des minorités. Et je vais revenir sur ce point dans quelques minutes. Où en sommes-nous? Nous sommes dans un contexte qui a changé et une rhétorique qui est en train de changer. Comparé à 1975-2015, nous avons un Québec émancipé et pluriel, une population mieux éduquée, l'apparition, disons-le franchement, de nouvelles tensions, et que ces tensions sont exacerbées par les médias sociaux et sont exacerbées par les médias traditionnels qui ont changé leur rôle, leur fonction au sein de la société. Depuis quelques années, je le disais, et surtout depuis l'incident de la Charte des valeurs auquel on a fait référence tout à l'heure, on note l'apparition d'un discours de droit de la majorité comme réponse aux droits perçus des minorités, pointant vers un croisement sociologique qui n'est pas inintéressant en soi. La majorité, il y a un malaise autour de la majorité au Québec. Le phénomène est apparu au Québec depuis le débat, disons-le, sur les accommodements raisonnables. Il a continué autour du rapport Bouchard-Taylor et il s'est, je dirais, catalysé autour de l'épisode de la Charte des valeurs. Il faut être clair. On perçoit aujourd'hui, sur la base de la galvanisation de valeurs prétendument québécoises, la manifestation de malaise et, dans certains cas, l'exacerbation d'intolérance, notamment vis-à-vis des minorités religieuses non chrétiennes issues de l'immigration récente, notamment les musulmans, mais aussi à l'égard d'autres groupes minoritaires. Prenez, pour exemple, le débat qu'il y a eu l'été dernier, lorsque des incidents ont été rapportés au sujet de l'accessibilité des trottoirs de la ville de Montréal, l'accessibilité pour les personnes handicapées par rapport à l'installation de terrasses sur les trottoirs. Et il y a eu des médias qui ont pris des positions extrêmement virulentes parce que, tout simplement, on voulait s'assurer que les gens à mobilité réduite pouvaient continuer à utiliser les trottoirs de la ville de Montréal et pas s'en faire jouer dans les tables et les bocs de bière. Alors, on est rendu assez loin et il y a eu une revendication des droits de la majorité à s'asseoir à la terrasse et que les personnes handicapées s'arrangent avec leurs problèmes. Pour véritablement rétablir les liens de confiance dans ce contexte et de solidarité entre la majorité et les personnes membres des groupes minoritaires, et je pense que c'est très important, nous devons chercher à tout prix à mieux comprendre les origines de ce malaise. Il convient également d'identifier les principaux mécanismes sociaux qui font que ce malaise se reproduit. Il nous faut agir concrètement aussi afin d'atténuer les effets possiblement discriminatoires de ces craintes vis-à-vis des personnes membres des groupes minoritaires. Il est clair que si nous ne venons pas à bout, si nous ne comprenons pas le phénomène, ce discours des droits de la majorité qui doit s'imposer aux droits de la minorité, ce discours est appelé à prendre de plus en plus d'importance et je m'en inquiète. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que les Québécois pensent au plus profond d'eux-mêmes? Est-ce que les chroniqueurs du Journal de Montréal, de l'Empire Pelado, qui font la pluie et le beau temps sur l'opinion publique au Québec, représentent véritablement cette opinion publique? on peut se poser la question, et à la Commission, nous nous sommes posé la question. Le début de la sagesse, c'est de comprendre quelle est la carte sociologique du Québec. On parle toujours d'un Québec de façon univoque, comme si le Québec était le même, le Québec des régions, le Québec de la région de Québec, le Québec de la région de Montréal, comme si les générations étaient les mêmes, comme si le Québec des nouveaux arrivants était semblable au Québec des Pure-Laines de certaines régions. Personne au gouvernement du Québec, j'ai posé des questions aux ministres, aux sous-ministres, on est en train d'élaborer actuellement une politique d'immigration et une nouvelle loi sur l'immigration qui va être présentée à l'Assemblée nationale dans les prochains mois. On n'a pas le début de l'idée de l'image que les Québécois ont des nouveaux arrivants, des processus d'intégration, etc. Nous nous sommes fait un cadeau pour le 40e anniversaire et grâce à des universitaires, dont Shauna que je vois ici, il y a un groupe d'universitaires sous la direction de Pierre Neurot à l'Université de Montréal avec des collègues de l'UQAM, de Sherbrooke, de l'Université McGill, qui ont mené un sondage sur ces questions. Et je voudrais partager avec vous pour vous donner une idée un peu de ce qu'on a, de ce qu'on commence à trouver. Et ce que je vais vous montrer, c'est à peu près littéralement 5 % de ce qu'on a actuellement. Et c'est uniquement le début d'une lecture qu'on va devoir s'astreindre à faire les universitaires, mais aussi que tout le monde va devoir s'astreindre à faire, selon moi. Juste pour vous indiquer, ce sondage, ce n'est pas le sondage croque la presse sur les dernières intentions de vote, là. On parle d'une enquête qui s'adresse aux adultes québécois. 1501 entrevues téléphoniques. Chaque entrevue téléphonique, 25 minutes et plus. Alors, c'est un volume considérable pour une enquête de ce genre et une marge d'erreur qui est tout à fait dans les normes pour ce genre d'enquête. Pour vous donner une idée de ce qu'on a été chercher, on a demandé est-ce que c'est votre image de certains groupes est positive ou négative? Une série de groupes. OK? Et voici ce que ça a donné. Des groupes de référence. Alors, l'image des personnes ayant un handicap, très positif. On parle de 91 % des répondants qui ont une bonne impression des personnes qui souffrent d'un handicap. Les personnes de couleur, 88 %, c'est quand même pas mal. Les jeunes, 84. Les homosexuels, 84. Imaginez si on avait fait l'enquête il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes, résultats. Par contre, les Autochtones, vous voyez que 77 % des répondants, et c'est fiable, ça, c'est une image du Québec, c'est un portrait sociologique du Québec, 77 % pour les Autochtones, les personnes d'une autre origine ethnique, 75 %. Et là, attention, on baisse. Pour ce qui est des personnes d'une autre religion, 68 %. Les assistés sociaux sont... Une personne sur deux a une image négative des assistés sociaux. By the way, les assistés sociaux, c'est condition sociale en article 10 de la Charte québécoise des droits. Et enfin, surprise, les manifestants ont la plus mauvaise image qu'on a trouvée dans notre enquête. Mais je vous rappelle que ça a été fait au printemps dernier et que l'UQAM, notamment, était aux prises avec tous les jours des difficultés considérables. Et on peut penser que sur les manifestants, ce n'est pas nécessairement, si on faisait le même sondage dans 2 ans ou dans 3 ans, on peut penser que ça changerait. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les personnes d'une autre religion et les assistés sociaux, qui sont assez faibles, c'est qu'on a l'impression que les gens, dans le fond, pourquoi les personnes qui ont un handicap de couleur, les jeunes, les homosexuels, les Autochtones, c'est comme si, d'une autre région ethnique, c'est comme si ces gens, c'était ce qu'ils sont, c'était leur identité. Donc, on accepte qu'on ne peut pas changer l'identité, mais c'est comme si on disait la religion, c'est un choix qui a été fait et on a moins de respect pour ce choix-là. Puis, des assistés sociaux, c'est comme si c'est un choix qui avait été fait de vivre dans la pauvreté. Donc, il va falloir gratter davantage d'où ça vient, croiser les données. mais c'est quand même, je pense, très intéressant. D'autres, la question des accommodements était, nous intéressait beaucoup pour voir les points de résistance des Québécois. Et on a demandé aux Québécois, il y avait une série de questions. Qu'est-ce que vous pensez des accommodements pour les groupes comme les personnes qui souffrent d'un handicap? Et vous voyez les résultats pour le handicap, pour les femmes enceintes, les femmes qui ont des enfants, les personnes qui ont un problème de santé mentale. Massivement, les Québécois disent, nous, on n'a aucun problème avec ça, à les accommoder. Même si on mettait le mot accommodement dans la question, parce qu'au Québec, on dit le mot accommodement, puis les gens deviennent à moitié fous, mais c'est une autre question. Par contre, vous voyez les Autochtones, les minorités visibles et les personnes de diverses orientations sexuelles, les personnes issues de l'immigration, là, les accommodements deviennent un petit peu plus problématiques. On est moins sûr qu'il faut les accommoder, quoiqu'une vaste majorité des Québécois pensent qu'il faut accommoder les membres de ces groupes. Et les personnes qui ont une religion, pouf! Là, on vient de tomber à 59 %. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des questions abstraites. Maintenant, on a essayé de juger en donnant des exemples où les Québécois se trouvent lorsqu'on pose des vraies questions. Alors, dans le concret, il y avait une série de causes où on disait, est-ce qu'il doit y avoir des accommodements? Et là, oups, on a un pattern qui est très, très, très différent. Alors, l'accès au commerce pour les personnes handicapées, les gens sont tout à fait d'accord. Possibilité de participer à une activité récréative d'un chien. Santé du travail pour une cure de désintoxication. Des horaires de travail souples pour les parents qui ont des enfants. Et un étudiant en difficulté scolaire prenait un peu plus de temps pour finir un examen, mais là, oups, ça commence à chuter. Et là, ça chute brutalement. La prise en compte des exigences alimentaires des groupes religieux dans les cafétérias des écoles. Accorder des congés particuliers pour des raisons culturelles. Là, il y a 60 % des Québécois qui sont pas d'accord avec ça. L'attribution des espaces de prière dans les collèges et les universités, on continue à descendre, et permettre à un étudiant de s'exprimer dans une langue différente de celle utilisée dans son cours. À ce moment-là, on atteint le fond du panier. Donc, c'est intéressant de voir que les Québécois ont une attitude plutôt positive à l'égard des groupes. Et lorsque on parle de façon très concrète d'accommodement, soudainement, la donne change. Et vous avez reconnu dans les cas de figure en bas des cas qui interpellent beaucoup dans les médias. Une assez étonnant, les attitudes et les opinions à l'égard de l'égalité des hommes-femmes et de l'égalité en général. Et on commence à avoir là, des données croisées là-dessus. Il y avait des énoncés. Dans la société, les inégalités entre les hommes et les femmes sont justifiées. Il y a 19 % des Québécois qui pensent que c'est justifié, autrement dit, que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Il est normal de considérer que certains emplois ne sont pas faits pour les femmes, 31 % des Québécois. Nous sommes allés trop loin en favorisant l'égalité des droits dans ce pays, 38 % des Québécois. Sont prêts à tenir ce discours. Et le Québec irait mieux si on était moins préoccupé de l'égalité des gens, 28 %. Donc, on voit qu'il y a un certain problème et sur l'inégalité des hommes et des femmes, évidemment. C'est un peu perturbant de penser qu'un Québécois sur cinq, c'est rassurant de dire qu'il y a 80 % des Québécois qui croient fermement dans l'égalité de l'homme, de la femme et de l'homme. C'est un peu inquiétant qu'il y en ait 20 % qui ne sont pas trop sûrs. Trois facteurs sont des facteurs discriminants. On essaye de comprendre d'où ça vient et d'avoir une lecture un petit peu plus fine de la société québécoise. L'âge, l'éducation et le facteur le plus prégnant, le plus fort, c'est ce qu'on appelle la proximité. Des exemples. Ce sont uniquement des exemples. Il y a un document qui va être rendu public dans les prochaines semaines. Et soit dit en passant, toutes les données vont être rendues publiques aussi. Donc, n'importe qui d'entre vous voulait prendre un logiciel et cruncher les données et faire les croisements, ça va être gratuit, ça va être sur notre site et vous serez encouragé à accéder à ces données. Alors, voici, vous avez les strates d'âge, donc ça va de 18 à 24, ça va jusqu'aux 65 et plus. Et c'était sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que les inégalités hommes-femmes sont justifiées? Et là, comme d'habitude, vous voyez que plus ça vieillit, plus les gens, là, si on prend les, dans le bleu ici, oups, excusez-moi, si on prend, c'était le mauvais bouton, mais ici, nous avons environ 26, 36 % des 65 ans et plus sont plutôt d'accord que l'homme et la femme sont pas égaux, alors que pour les 18-24, vous voyez, c'est 15 %. Alors, vous voyez, les strates d'âge se répartissent, mais ce que ça démontre, c'est que à partir de 55 ans et les 65 ans et plus sont les groupes qui croient le moins dans les valeurs égalitaires de la société québécoise. Donc, il est clair que nous, comme Commission des droits où on a une mission d'éducation, il va falloir travailler avec les boomers, il va falloir travailler avec les 55 ans et plus, et on ne s'adresse pas aux 55 ans et plus de la même façon qu'on s'adresse aux 18-35 ans dans une société, on le comprendra amplement. Les niveaux de scolarité sont assez spectaculaires comme marqueurs et comme influençant la perception que les gens ont des droits à l'égalité. Alors, par exemple, la justification des inégalités hommes-femmes, est-ce que c'est justifié? Alors, les gens qui ont du premier cycle universitaire, deuxième cycle universitaire, vous voyez que massivement, on dit que l'égalité, dans le fond, ça veut dire tout ça. Il y en a très, très peu qui disent que c'est justifié que l'homme ne soit pas l'égal de la femme. Vous voyez, le premier cycle universitaire, et regardez au primaire maintenant, 25 plus presque 20 % 45 % des gens qui n'ont qu'une éducation primaire effectivement pensent que la femme n'est pas égale de l'homme. Donc, ce que ça indique très clairement, que l'éducation est un puissant catalyseur pour faire abattre les résistances dans une société comme la nôtre. Le niveau de scolarité, est-ce qu'on change la question? Est-ce que le Québec change trop rapidement à cause des minorités ethniques? On a posé des questions brutales, il fallait avoir des réponses, on voulait aller chercher des vraies réponses. Et là, vous voyez encore une fois, très clairement, qu'ici, 25 plus presque 45 % des gens qui ont une éducation primaire disent que le Québec change trop vite pour s'ajuster aux minorités ethniques. Et regardez au milieu universitaire, cycle supérieur, 20 % et un petit peu plus, 23 % au niveau universitaire, premier cycle. Donc, véritablement, comme critère, le niveau de scolarité est un critère extrêmement important. Maintenant, on le disait, le critère qui ressort le plus, c'est le critère de la proximité. Ça, c'est une leçon qui est très importante, je pense, pour le futur de la société québécoise et le respect des droits et libertés. Si vous regardez ici, on a demandé aux gens, est-ce que vous fréquentez des gens qui font partie de minorités ethniques souvent, parfois, rarement ou jamais? Il y en a 50. Selon leur réponse là, on a dit, est-ce que vous trouvez que la société est trop ouverte? Alors, ceux qui fréquentent beaucoup des minorités ethniques disent à 22 % oui, la société est trop ouverte. Et regardez, ceux qui ne fréquentent jamais sont à 52 %. Est-ce que les changements sociaux sont trop rapides au Québec? Ceux qui fréquentent, 32 % ceux qui ne fréquentent pas, 57 %. Est-ce que vous avez une opinion positive à l'égard de la diversité quand vous fréquentez des gens souvent? À 83 % vous avez une opinion positive. Quand vous ne fréquentez jamais, vous avez une opinion positive uniquement à 42 % Est-ce qu'on devrait donner priorité aux emplois aux Québécois? Lorsqu'on fréquente souvent, c'est 30 % qui disent oui, on devrait donner priorité. C'est 80 % lorsqu'on ne fréquente jamais de membres de minorité. Est-ce que les immigrants devraient retourner dans leur pays? Et là, vous voyez encore une fois la progression qui est absolument remarquable. Est-ce que les immigrants devraient maintenir leur tradition, avoir le droit de maintenir leur tradition? Quand on les fréquente souvent, on dit oui à 83 %. Quand on ne les fréquente pas, on dit oui uniquement à 61 %. Profilage ethnique, est-ce que la police est justifiée de profiler les gens des ethnies, les gens ethniques ou racisés? Et là, quand on les fréquente souvent, c'est oui à 27 %. Quand on ne fréquente jamais, c'est oui à 61 %. Okay? Donc, nous avons véritablement, c'est un cas où on est en train d'identifier les clés pour changer les mentalités. Et il va y avoir beaucoup d'autres recherches à mener, évidemment, là-dedans. La dernière diapo, niveau de fréquentation et opinion à l'égard des personnes de couleur. Quelle est la nature de vos rapports avec les personnes de couleur? Alors, si vous les voyez souvent, vous les rencontrez souvent, c'est positif à plus, c'est du côté positif, là. Et donc, positif carrément à 93%, plutôt positif. Si vous les rencontrez parfois, rarement et jamais, vous voyez qu'il y a un 11,3% qui a une opinion négative des gens de couleur au Québec. Et ce sont des gens qui ne les ont jamais rencontrés. Alors, et ça, c'est uniquement la pointe de l'iceberg que je vous montre. C'est le genre de travail qu'il va falloir faire pour comprendre les tensions, pour comprendre les malaises qui existent actuellement dans la société québécoise. Nous pensons que pour nous, ça va être important pour guider les politiques publiques, ça va être important à la Commission pour nos politiques d'éducation, pour cibler les groupes et communiquer avec les groupes comme il se doit et les aider dans l'éducation aux droits. Alors, où cela nous laisse-t-il? Après 40 ans, on l'a vu, le bilan judiciaire est très positif. L'avenir est un petit peu moins incertain. Au niveau du changement des mentalités, on peut déplorer certains de ces résultats, mais si on le regarde à l'envers, il y a eu une progression remarquable des mentalités au Québec à l'égard d'un paquet de groupes. Je pense qu'on avait posé les mêmes questions il y a 20 ans ou il y a 40 ans, mais on n'a pas de point de référence, alors on ne peut pas le faire. Mais il y a quand même une vaste majorité des Québécois qui endossent les valeurs d'égalité. Il y a tout un chapitre sur la religion, et si vous cherchez à comprendre comment on peut faire basculer une campagne électorale au Canada sur une histoire d'assermentation avec les niqabs, vous avez des débuts de réponse là-dedans. Il y a un immense malaise au Québec autour des questions de religion. Vous allez, dans le rapport, lorsqu'il sera rendu public, vous verrez que le malaise est palpable et c'est une. Les Québécois croient profondément dans la neutralité de l'État et la laïcité, en autant que ça soit catholique et chrétien. Alors, quels sont les défis pour les prochaines années? On va continuer. Je pense que c'est important comme société qu'on puisse continuer à se fier sur les tribunaux, mais on peut penser que la partie va être un petit peu plus difficile du côté des tribunaux. Il va être important comme société de travailler pour les 40 prochaines années à intervenir davantage au plan systémique pour faire changer les mentalités et faire changer les façons de faire. Égalité homme-femme, on en parle beaucoup au Québec. Certains en parlent comme si c'était acquis. C'est hallucinant à quel point on est en retard là-dessus. Les gens ne se rendent pas compte, tout est à faire. Quand avez-vous eu une femme plombier ou électricien qui est venue chez vous la dernière fois? Savez-vous les grues qu'on voit à la grandeur du centre-ville de Montréal? Vous regarderez les messieurs avec des gros chapeaux qui les manipulent, c'est des joysticks. Pensez-vous que les femmes ne sont pas capables de faire ça? Pensez-vous qu'il n'y a pas de place pour les femmes dans l'industrie de la construction? Ils n'occupent pas 1% des postes actuellement. Il y a des domaines qui sont... Il n'y a absolument aucune raison. Et dans certains domaines où on a fait des progrès, on a émis un rapport récemment sur la Sûreté du Québec, il y a eu un progrès remarquable des femmes, mais les femmes ont reçu le message que c'est un milieu toxique, c'est un milieu hostile, et les femmes ne vont plus à l'école de police, les femmes n'ont plus l'ambition, ou beaucoup moins l'ambition de joindre la Sûreté du Québec. Alors, on n'avance pas, on se met à reculer dans certains domaines à l'égard de l'égalité homme-femme. Je ne vous parle pas du secteur du travail en général, des personnes souffrant de handicap, c'est incroyable. Une plainte sur deux à la Commission traite de ces questions. On n'avance pas Et vous avez vu pourtant les résultats des sondages, les Québécois sont prêts à ce qu'on avance. On réussit à inaugurer des lignes de métro, des trains, des affaires, et on réussit à investir des milliards de dollars dans les infrastructures, puis on réussit à peu près rien faire pour les personnes handicapées. Je ne vous parle pas des peuples autochtones, je ne vous parle pas des personnes racisées, du profilage. Et le défi, donc, je pense, comme société, ça va être secteur par secteur, question par question, de forcer véritablement, grâce à la charte, c'est un outil qui est remarquable pour ça, les gens à comprendre qu'il y a certaines situations qui ne peuvent pas continuer comme ça. Un des défis aussi, c'est plus pour la commission que je préside, ça va être d'accompagner les mutations continuelles de l'État. L'État, le rôle de l'État est constamment remis en question. Vous le savez ces jours-ci, ça l'est depuis quelques années, ça l'est depuis des décennies, et ça va continuer à l'être. Et je pense que les valeurs de la Charte québécoise doivent définitivement inspirer la remise en question du rôle de l'État. Enfin, et c'est le dernier grand chantier, il va s'agir de travailler au changement des mentalités, vous l'avez compris avec les résultats du sondage, une fois qu'on va bien les comprendre, de travailler à l'éducation des droits, qui est absolument incontournable pour faire face à tous les problèmes de la société actuelle et les problèmes de la société de demain. Récemment, depuis un an au Québec, on a parlé d'intimidation. Comment peut-on surmonter l'intimidation? C'est par l'éducation aux droits, notamment dans les écoles. Comment on a parlé, dans le cadre de l'affaire Gros-Méchy, on a fait le bilan des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel dans la société québécoise. Comment peut-on passer à travers ça? Comment peut-on changer les mentalités? C'est certes, en mettant le monde en prison, là, mais on voit que c'est pas assez. Changer les mentalités, ça demande de l'éducation au droit à tous les niveaux. Et enfin, pour ce qui est de l'intégration des nouveaux arrivants dans la société québécoise, ça va prendre un sérieux, mais un très sérieux chantier pour combattre la discrimination et le racisme systématique auquel nos nouveaux arrivants font face. Regardez les statistiques, c'est un jeté à terre, Mais on commence à avoir des clés. La question de la proximité est une question qui est très importante. Et si on est capable de vaincre cette proximité, probablement que peu à peu, les barrières vont tomber. Et il y a certaines zones dans la société où les résultats sont extrêmement encourageants, dont, regardez la STM à Montréal, a fait des efforts remarquables d'intégration de populations de toutes sortes et s'en trouve enrichi. Je conclue. Monsieur le doyen, distingués invités, la 40e anniversaire de la Charte, c'est une bonne occasion de prendre du recul. Comme dit le vieil adage, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console, peut-être, parce qu'on n'est pas la seule société au monde, au contraire, qui a ce genre de défi. Il nous faut collectivement prendre la dimension du chemin qui nous reste à parcourir, mais en attendant, il nous faut résister aux appels radicalisants et intolérants de certaines franges de la société qui prétendent parler au nom de la majorité. La majorité que vous avez vue là n'est pas la majorité de plusieurs franges des réseaux sociaux et de plusieurs de ce qu'on lit dans les médias plus traditionnels. Il convient, et c'est une lutte de tous les instants, de rappeler l'importance des valeurs démocratiques, y compris de celles associées à la protection des droits et libertés. Je ne commenterai pas le procès Ward contre Jérémy, je n'en pense pas moins. Il reste que comme société, c'est extraordinaire que des personnes vulnérables doivent se rendre en cour pour voir leurs droits respectés. Nous devons à tout prix maintenir la conversation au sujet des droits et je pense que depuis quelques mois, on est dans une conversation rigoureuse, vigoureuse au sujet des droits et libertés, notamment autour de la question de la liberté d'expression, et je pense qu'il faut s'en réjouir. L'exemplification des droits et libertés est une responsabilité à partager en ce 800e anniversaire de la Magna Carta, 40e anniversaire, c'est beaucoup plus modeste, la Charte des droits et libertés de la personne. Il s'agit d'une responsabilité individuelle aussi. Que nous réserve donc les 40 prochaines années? C'est un peu difficile à dire, et comme disait Yogi Berra, it's tough to make predictions, especially about the future. Thank you.
Merci infiniment, professeur Frémont, pour ce discours et pour ces commentaires qui démontrent, je pense, extrêmement bien à quel point la charte offre à la Commission tout un éventail de réponses, donc au-delà des recours uniquement devant les tribunaux ou le tribunal. J'aimerais en ce moment-ci prendre des questions, commentaires de l'auditoire. Il y a deux microphones auxquels vous pourriez vous diriger pour poser les questions. S'il vous plaît, vous présentez en prononçant.
Frédéric Maigret de la faculté, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement passionnante. J'avais un commentaire et une question. Le commentaire, dans l'évaluation qu'on fait du succès de la charte, il me semble que la contextualisation internationale est intéressante et je vais quand même souligner certaines innovations spécifiques au Québec ou au Canada et le fait que souvent la barre a été mise relativement haut. Il y a notamment cette spécificité de l'applicabilité des droits aux acteurs privés qu'on ne retrouve pas du tout en droit international des droits de la personne. Et puis les accommodements raisonnables qui sont quelque chose d'inconcevable même dans le contexte européen où on s'en tient à une conception extrêmement formelle de l'égalité. Donc peut-être que si les progrès des fois paraissent lents, c'est aussi que l'ambition est relativement grande à l'échelle internationale. La question que je vais poser n'a rien à voir, et c'est porter plutôt les fois où il m'arrive d'être un peu déprimé par rapport à l'avancement des droits au Québec, c'est quand je m'égare sur les commentaires sur les réseaux sociaux et notamment qui font suite à des articles où on assiste parfois à des déversements haineux, pour ne pas utiliser un autre terme, et où qui sont sans doute un baromètre extrêmement imparfait, et je pense que ce que vous nous avez montré ce soir le suggère de l'état réel de l'opinion publique, mais donc souvent marquant, qui donne un ton très acrimonieux à ces débats. Et donc je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas des initiatives à prendre, alors surtout avec des générations qui maintenant passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, où l'information, la médiation de l'information se fait beaucoup par la présence sur ces réseaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir, et dans la mesure où le rôle de modération, notamment des grands médias, n'a pas lieu, c'est-à-dire en lieu de démocratie, on laisse les gens tout dire, avec un débat qui est très désorganisé, est-ce que la Commission ne devrait pas être plus présente dans ce genre de forum? Il y a des choses qui restent écrites, qui sont extrêmement pénibles pendant très longtemps, on a l'impression sans qu'il se passe grand-chose. Voilà.
Merci pour votre question qui est fort pertinente. Effectivement, est-ce que la Commission ne devrait pas être plus présente? Peut-être, mais c'est que dans la culture des réseaux sociaux actuellement, si on joint une conversation, puis on saute, puis on répond, à ce moment-là, ça catalyse encore davantage. Et c'est ça, dans le fond, c'est à force de provoquer, on veut provoquer une réaction, et quand on a une réaction, ça s'amplifie encore. Alors, il y a un problème là, de tactique à cet égard, et honnêtement, je pense que ça serait très mal vu que la Commission fréquente certains réseaux sociaux qui sont absolument, qui lèvent le cœur, parce que les causes qui sont poursuivies sont... Et les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, là, en autant que ça ne viole pas les lois. Mais donc, il y a un problème. Une des choses claires, si vous regardez d'autres sondages d'opinion, les plus gros utilisateurs des réseaux sociaux sont les moins de 35 ans. Les deuxièmes plus gros utilisateurs des réseaux sociaux sont les plus de 55 ans. Et là, je pense que pour les plus de 55 ans, qui ont le temps et qui sont plus mesurés, sans doute, quoi qu'on peut peut-être pas, il va falloir gratter ça, mais il va falloir effectivement que la Commission, dans sa mission d'éducation au droit, s'approprie ceci. Maintenant, ce qui est remarquable, c'est tout le travail qui est fait par des organismes, notamment de la société civile, dans les médias sociaux, dans des environnements électroniques. Il y a des gens qui font des choses absolument extraordinaires, qui s'utilisent ça dans les écoles, qui utilisent ça dans toutes sortes, et même à l'international. Alors c'est, on se demande comme société comment s'approprier pour que ça pousse dans la bonne direction. Il y a déjà beaucoup de choses. Le problème, c'est que dans le fond, les gens ne sont pas tellement dans les réseaux sociaux intéressés à avoir une conversation. Ils sont intéressés à écraser l'autre. Donc, ce n'est pas véritablement... et je caricature sans doute qu'il y a des gens qui pourraient me challenger là-dessus, mais c'est certainement la perception qu'on a. Actuellement, c'est « je suis plus fort que toi, je gagne, écarte-toi ». Alors, ce n'est pas le type de conversation qu'on va avoir dans une société et dans une démocratie, malheureusement. Maintenant, ce qui est intéressant pour les normes internationales, comme vous le dites, ça va prendre du temps. Je ne voudrais pas que mon discours soit pessimiste. J'aime toujours la boutade. Lorsqu'on a demandé à Mao, c'est donc qu'est-ce qu'il pensait de la Révolution française, il a dit qu'il était un peu tôt pour se prononcer. L'évolution des droits, ça ne se fait pas dans un coup de cuillère à peau. Il faut donner le temps au temps aussi. Alors, et je pense que mon exposé ce soir démontre qu'on a beaucoup progressé aussi comme société.
Bonsoir, merci pour votre discours. Je suis étudiante ici à la faculté. Ma question, c'est, j'ai remarqué les résultats de la sondage. Les résultats étaient la plus basse pour le droit de s'exprimer dans une langue, dans une autre langue. Et aussi, j'ai remarqué que les attitudes envers les minorités, on n'avait pas demandé la question quelles sont les attitudes envers celles dont la langue maternelle n'est pas le français. Et j'aimerais que vous élaboriez un peu sur ce point-là et aussi sur le pluralisme linguistique ici au Québec.
OK, je pense qu'il faut faire attention. Premièrement, c'est sûr que la langue est un motif de discrimination. On a dû choisir, il y a 13 motifs dans la Charte québécoise, et pour des raisons de coût, il fallait en choisir 5 ou 6. Vous ne trouverez pas un chapitre particulier, par exemple, sur l'homophobie ou les personnes, les LGBT, etc. Pour toutes sortes de raisons, on n'a pas posé de questions là-dessus, puis on n'a pas gratté spécifiquement la question des langues. Cependant, dans les groupes, et ça c'est important parce que, je vous disais, c'est très riche comme sondage, il y avait des questions sur « vous êtes né au Québec, vous êtes né au Canada, mais à l'extérieur du Québec, ou vous êtes né à l'étranger ». Et là, ça va nous permettre ça de juger aussi de l'attitude des nouveaux arrivants par rapport aux valeurs de l'égalité et aux valeurs de la Charte. Parce qu'on sait, dans certaines parties du pays, certaines communautés sont elles-mêmes victimes de racisme, mais peuvent aussi exercer beaucoup de discrimination. Alors, on va être capable de mesurer ça. Mais la question de la langue n'était pas, et puis vous comprendrez que, à la Commission, la question de la langue est importante, c'est un motif de discrimination, mais ce n'est pas le principal motif, c'est assez marginal. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas gratté la question. Et si je me souviens, il n'y avait pas de question sur la langue parlée à la maison. C'était véritablement l'endroit où vous êtes né qui était... et à cet égard, et moi, ça me déplaisait pas du tout, les Québécois anglophones sont nés au Québec, ils font partie du groupe québécois. On n'a pas distingué entre les Québécois anglophones et les Québécois francophones. Alors, les pure laine dans ce sondage-là sont des gens nés au Québec, en dépit de la langue. Mais probablement que pour un autre sondage, on pourra aller plus profondément là-dessus.
Je ne fixais pas seulement sur anglais et français, mais un peu plus le multilinguisme.
Tout à fait.
My French is poor, so if I may, I'll speak in English. Undoubtedly, Quebec has made significant contributions in the area of human rights, but I wondered whether the bill itself has not also acted as a disincentive in that it raises false expectations and it encourages people to think that all of these issues can be settled by law rather than by social policy. And I'm wondering if you have an opinion on this question of how does one advance human rights? Is it strictly by legal charters, or does one have to consider other areas of the society?
If I understand your question well, I think my point tonight was that we have to move ahead in terms of the law and in the legal realm, but the main challenges are outside the legal realm, and it's to change the mindsets of Quebecers, and there's no easy way to do that. It has to go through education, it has to go through, but between you and me, look at where we are in terms of LGBT rights. What happened in the last 10 years or 15 years that people have changed their mindset, that the vast majority of Quebecers now agree that homosexuals can get married, that transgender have rights, so on and so forth. What happened? And I can't explain it. It's a combination of legal judgments, of attitude. What makes a culture flip? I worked in the United States for 2 or 3 years. While I was there, the attitude towards LGBT also changed. And God knows the U.S. is not exactly the place where the most open place in the world, especially in the Midwest. And but somehow something happens. We understand so little about the mechanisms of social change. And if we could have a better idea of how it works, how it's triggered, then, and I think this is a first step, but we need to have many other steps, we'll be able maybe to use and maneuver so that we do not have to rely exclusively on law and the legal order to provoke social change. Because law and the legal order sometimes is ahead, at other times it is behind a social change.
Thank you.
Si je suis étudiant ici à la faculté aussi. Ma question, dans le fond, vous avez brièvement fait un survol sur la liberté d'expression. Vous en avez parlé. Puis en ce qui a trait au projet de loi 59.
Je savais que j'aurais une question là-dessus.
C'est en partie, dans le fond, à cause de vous que le gouvernement a présenté ce projet de loi-là qui, certains vont dire, porte atteinte justement à la liberté d'expression. Justement, le barreau du Québec est sorti pour aller contre ce projet de loi-là. Mais dans le fond, j'aimerais juste vous entendre sur ça pour avoir votre point de vue, de ne pas avoir le filtre des médias, dans le fond. Donc, que vous avez la chance, dans le fond, de nous dire pourquoi vous êtes en faveur de ce projet de loi-là.
Merci de votre question. J'étais sûr que je l'aurais. Et ça me fait plaisir d'y répondre. Nous avons, vous irez sur notre site web, nous avons produit un mémoire à l'Assemblée nationale. La ministre a présenté le projet de loi. On est entre nous en famille. La ministre a présenté le projet de loi en disant que c'est à la suggestion de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ça n'est pas ce que nous avions présenté. Lors de la lutte sur l'intimidation, nous avons suggéré une modification à la Charte québécoise des droits et libertés pour qu'il y ait une disposition qui traite dans le prolongement de l'article 11, je me souviens bien, du discours haineux discriminatoire. Et donc, une modification à la charte, et c'est précisément ce que la Saskatchewan avait fait et que ça a été validé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Whatcott. Et la Cour suprême a même dit dans cette affaire-là, non seulement c'est correct, il y avait une partie de la clause qui n'était pas correcte, mais non seulement c'est correct, mais ce sont les commissions des droits provinciales qui sont les plus à même les mieux situés pour équilibrer les droits en présence, soit la liberté d'expression, d'une part, et la liberté d'une personne de ne pas être atteinte dans sa dignité, de voir ses droits à l'égalité reconnus. Et c'est ce que nous avions proposé. Ce n'est pas le projet de loi qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Vous le savez, c'est un projet de loi beaucoup plus de nature pénale, mais quoi qu'on peut discuter de la nature du projet de loi, avec des amendes, etc. Si vous allez voir notre mémoire, vous allez voir que nous continuons à dire, et je pense que c'est important, que en matière de droit, on est toujours en termes d'équilibrage, et que dans le discours haineux ou le discours haineux discriminatoire, il y a un autre côté de la médaille, qui est le droit à la dignité, qui est le droit aux gens de vivre et ne pas subir de discrimination parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont juifs ou parce qu'ils sont LGBT. Ils font partie de cette communauté parce qu'ils sont une personne handicapée. Et comme membres, ce que nous faisons dans le mémoire, nous démontrons que actuellement, si vous êtes, puis on dit, toi, maudit noir, tu m'écœures, retourne chez vous, il y a un recours à la commission. Il n'y a pas de problème. Mais si on attaque toute une communauté, c'est démontré, les études sociologiques, il y a des références, les gens des communautés se sentent méprisés, se sentent aliénés, atteints dans leur dignité, et souvent refusent par la suite de participer au processus démocratique, précisément parce qu'ils partent perdants. On leur a dit, t'es un pas bon, t'as pas d'affaire à parler à cause de ce que tu es. Alors, on fait la défense et l'illustration de ça. Ce projet de loi-là, on ne l'a pas demandé. Si la législature du Québec adopte le projet de loi, même un projet de loi modifié, on est dedans, on n'a pas le choix. On va être obligé de l'appliquer avec tout le sérieux possible, mais surtout dans le respect intégral des droits et libertés qui sont en question. Alors, mais maintenant, faites attention, le barreau, on aurait signé le rapport du barreau, parce que le barreau, contrairement à ce qui a été rapporté dans les journaux, le barreau a dit exactement ce que je viens de vous dire. Il est important au Québec qu'on puisse protéger la dignité, le droit à la dignité des gens et le droit de ne pas subir de discrimination comme groupe. Le barreau a dit on n'aime pas ce qu'on lit dans le projet de loi, on n'aime pas le véhicule qui a été choisi, mais une clause à la Watcott semblerait tout à fait appropriée. Cette partie-là de l'exposé du barreau n'a pas été retenue par les médias et notre mémoire, il n'y a pas eu une mention dans aucun média au Québec. Tous les médias se sont prononcés contre le projet de loi 59. Ils avaient le droit de se prononcer contre, il n'y a pas de problème. C'est la plus parfaite liberté d'expression. Mais que la Commission des droits, qui est prise à partie régulièrement dans les médias, publie un communiqué, fasse un exposé d'une heure à l'Assemblée nationale et qu'il n'y ait pas le début d'une première nouvelle, c'est assez extraordinaire. Que le barreau fasse la même chose et qu'on dise le barreau est contre le projet de loi alors qu'on témoigne absolument pas de la position beaucoup plus nuancée du barreau, on se demande s'il n'y a pas un complot quelque part, là, s'il n'y a pas une censure qui s'exerce dans la société québécoise. Je pose la question.
Could you
speak maybe closer to the mic?
Sure. So I don't think we can just slowly rely on law to provoke change. And so my question is there anything you can recommend that we do on an individual level to reignite the spirit of the Quebec Charter and in doing so combat discrimination and racism and promote equality? So my question is more for practical recommendations.
If my understanding is correct, the question is what can we do personally to promote the spirit of the Charter, really, through individual gestures, potentially, against racism, against discrimination?
Okay. Well, I think there are many things. The first thing is to be aware that there's discrimination everywhere, to get involved personally or in NGOs, in civil society bodies. As future students, as actual students, but future professional lawyers or so, in the firm where you will work, in the people you will interact with, to be sensitive to these issues, to force people to reflect on what they're doing, why they're doing it, and to say that basically rights are reasonable in a decent society. There are many ways. I look at people here, and some people have spent their lives fighting for different causes within the human rights community. But it is a responsibility. I will always remember one of my aunts. She was getting old and older, and she was from Quebec City, and she was basically racist. I mean, what she was saying was extremely racist. I had a couple of conversations with her, and at some point I said, listen, I don't want to hear what you're saying in my house. So if you want to be welcome as a guest, and it sort of shocked her. After that, she thought a little more about it, and in her old days, she went into CHSLD, and where it was people from Tunisia, from Mauritius, from Pakistan who were taking care of her, and then she became great friends with them, proximité, And she was the less racist person in the world. But I think it's to also to, when people around you say things you think are not proper, to say, hey, listen, you really think what you're saying.
Yes, we have time for one or two more questions. Thank you.
Bien, c'est une question qui peut être reliée, mais aux deux dernières. Je m'étais levée parce que je désirais effectivement faire la mise au point. Je reviens donc à l'avant-dernière question.
Oui, du barreau.
Parce que je suis membre du comité aviseur du barreau et j'étais très déboussolée d'entendre à McGill que le barreau était contre le projet de loi 59 comme tel. Mais vous avez fait la mise au point que j'allais faire et ça me rassure qu'au moins certaines personnes prennent le temps de lire parce qu'effectivement, la position était beaucoup plus nuancée et sur la question du discours haineux. Favorise absolument qu'il y ait une législation, parce qu'on parle vraiment d'un discours, pas seulement sur les paroles qui sont désagréables, etc., mais un discours méprisant et haineux envers certains groupes. Mais la forme, évidemment, et la façon d'aborder la chose avec la dénonciation et les listes de personnes, évidemment, il y a beaucoup à critiquer sur la procédure qui est envisagée. Mais ça, c'était la parenthèse. Je voulais revenir sur la question parce que je trouvais très intéressant. À ma connaissance, c'est la première fois depuis peut-être 1994-2000 que la Commission ait pris la peine de revenir sur cette question du discours haineux. Et ma question, M. Frémont, est-ce que c'est parce que la Commission observe qu'il y a dans la communauté que vous êtes saisie de plus de plaintes ou de demandes concernant ce type de discours, donc qui va au-delà d'insultes désagréables, mais de discours haineux, qui vous amenait à recommander des changements, un changement de...
Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avions fait les propositions dans le passé et ça faisait une quinzaine d'années à peu près qu'on n'avait pas ramené cette proposition sur le devant. Écoutez, non, il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de... Ça a été de se dire à ce moment-là et c'était, quand on l'a ramené, c'était un an ou 15 mois après le jugement Watcott qui avait levé les verrous un peu sur certaines questions qu'on se posait alors que le fédéral avait fait disparaître sa clause dans la loi canadienne sur les droits de la personne, sa clause équivalente. On s'est dit en regardant Watcott, finalement, ben là, c'est peut-être le temps, étant donné qu'on a un feu vert de la part de la Cour suprême, donc par rapport aux chartes, c'est peut-être le temps de ramener cette question. Si, dans votre question, vous demandez, est-ce qu'il y a plus de plaintes à la Commission? Est-ce qu'il y a plus de... Ce qui est clair, c'est que dans la société, il y a beaucoup plus de discours qui, notamment avec les médias sociaux, qui pourraient se qualifier ou qui sont dans une zone de discours, mettons-le, de discours désagréables, auxquels on n'a pas à intervenir et on ne veut pas intervenir. Ce qui est clair, c'est que ce n'est pas parce qu'un phénomène, puis ça me fascine depuis que je suis arrivé à la Commission, ce n'est pas parce qu'un phénomène est très important dans la société que ça se traduit en nombre de plaintes à la Commission. Et prenez les discriminations à l'égard des personnes itinérantes, vous le savez, on n'en a pas de plainte. On voudrait en avoir pour être capable de faire le droit. Les personnes qui sont en situation d'itinérance ne se plaignent pas à la Commission. Un autre exemple que je peux donner, pendant la période de la Charte des valeurs, il y a eu des incidents à la grandeur du Québec. Des gens qui se sont fait interpeller, qui se sont fait agresser, même physiquement, etc., on s'est dit qu'il va y avoir un tsunami de plaintes à la Commission. Il n'y a pas eu une plainte supplémentaire cette année-là. Alors, qu'est-ce que ça nous a indiqué? Parce qu'on parlait aux gens des communautés, et les communautés se sont renfermées entre elles et ont souffert entre elles et se sont senties aliénées par rapport au reste du Québec, par rapport au débat qui se passait. Donc, le lien entre le problème social qu'on a et le nombre de plaintes, c'est une équation qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas le faire dans le cas du discours haineux. Et on ne peut pas le faire dans le cas de... Et donc, c'est dérangeant. Dans certains cas, par exemple, les personnes âgées sont massivement victimes de discrimination, d'âgisme, d'exploitation. Ils ne font pas de plainte. Ils sont complètement dépendants des gens qui les exploitent. On le sait, là. Il y a l'article 48 que vous connaissez mieux que moi dans la charte. Autrement dit, le système de plainte est bon, ça permet aux gens de se plaindre, mais il n'y a pas de lien nécessairement avec ce qui se passe réellement dans la société. Et c'est assez fascinant, c'est peut-être que la commission n'est pas connue, qu'on s'annonce mal, ou une combinaison aussi de dire, ben les gens, ils ne veulent pas se plaindre. Ils aiment mieux ravaler, souffrir, et puis souffrir silencieusement.
Another important statistic that comes out of that study. Our last question, and Mr.
Lacky. Sure. Vous avez évoqué à quelques reprises les mouvements extraordinaires aux côtés des mouvements LGBT. Mais je ne veux pas être trop pessimiste, mais je pense qu'il y a deux qualités peut-être qui sont vraiment spécifiques à ce mouvement-là, et je me demande ce que vous en pensez. D'abord, la proximité, parce qu'on a réussi à convaincre tout le monde, qu'il s'agisse de votre fille ou votre voisin ou votre cousin, tout le monde connaît déjà quelqu'un qui est gay lesbien. Je pense que la proximité... avec le coming out en masse, on a réussi ce côté-là. Et l'autre, je pense que le mouvement est parvenu à convaincre les gens que ce n'était pas un argument pour un accommodement, pour un traitement différencié, mais vraiment juste pour un traitement égal. Je trouve, à la Cour suprême du Canada, c'est vraiment le traitement, je vois le jugement sur l'article 15 à l'égard des gays et lesbiennes comme le triomphe de l'égalité formelle et un meilleur côté de plus en plus de l'égalité réelle. Donc, évidemment, vous me convainquez que je tords. Mais pour moi, je vois vraiment ça comme un cas à part, et la classe, la télévision, la différence, ce n'est pas nécessairement... Je ne suis pas convaincu qu'il y a vraiment des leçons à transférer d'un camp vers l'autre.
Mm-hmm. Ben, c'est très intéressant. C'est quand il y a une partie de la littérature, je crois comprendre, sur le mouvement LGBT, qui explique le succès du mouvement LGBT parce que c'était essentiellement un des hommes qui menait... la lutte, et précisément parce que c'était des hommes, et c'était des hommes qui avaient des moyens financiers, en tout cas certains. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont été écoutés, alors que des femmes vulnérables, alors que des personnes en situation de pauvreté, etc., auraient eu beaucoup plus de difficultés à se faire entendre. Je pense que c'est un peu court comme explication et sociologique, mais c'est pas inintéressant de voir pourquoi une société a basculé, mais la lutte est loin d'être terminée. Là. C'est assez spectaculaire dans certains milieux. Encore, l'homophobie est encore très présente au Québec et ailleurs. Autour des questions de transgenre, il y a une espèce d'incompréhension dans plusieurs milieux. On est loin d'être sorti de dire ce dossier-là est réglé et on va le rayer sur notre liste de to-do. On va rayer LGBT et orientation sexuelle. Et est-ce que ça a été les mécanismes de changement social aux États-Unis sont les mêmes que les mécanismes de changement social au Québec ou en France? Je ne sais pas. Regardez en France la lutte contre le mariage gay. C'est spectaculaire ce qui s'est passé comme société. Jamais au Québec, on pense qu'on aurait pu imaginer ça. Donc, quelque part, le changement social, ce n'est pas fait de la même façon en France. Au Québec et au Canada, mais c'est une question fascinante. Pour moi, si on avait la clé du changement social, si on comprenait mieux les mécanismes de fonctionnement. Alors, moi, je deviens très modeste. J'ai passé ma vie à penser que le droit, ça marchait. Ça marche, mais je pense que les sociologues, on doit être modeste et que les sociologues ont beaucoup à nous apprendre pour le futur de notre société.
Donc, il me reste à vous remercier, M. Frémont, très chaleureusement pour un discours que j'ai trouvé extrêmement satisfaisant. Vous avez parvenu à non seulement nous expliquer l'état du droit et d'aller au-delà pour interroger ses directions, mais vous êtes allé au-delà du droit et nous interpeller sur les dimensions de notre société. Et on voit là-dedans, et là je fais référence aux mots d'introduction ou d'ouverture du doyen qui nous ont rappelé l'importance à la fois de combiner le rôle
de chercheurs, de professeurs et de personnes engagées envers la société. Je trouve que vous avez fait, et pour mal paraphraser Yogi Berra, vous avez donné 100% et vous avez donné encore. Donc, merci infiniment. Merci. Ceci clôt notre soirée et merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir posé des questions si intéressantes.
2000. What was it?